7h18, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Bon, on a vu Caroline Néron, tout le monde en parle. Quatre leçons à tirer de son expérience d'affaires.
Oui, et je parlais pas de la dame, je parlais de son entreprise. On va conclure sur l'étude de cas. Ça fera une étude de cas dans les cégeps et les universités en marketing. Première leçon à tirer, si tu vends du storytelling, t'as intérêt à ce que l'histoire soit vraie.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, tu sais, quand j'achète une pure vodka de Nicolas Duvernois, ben, j'achète le gars qui lavait des planchers, qui avait un diplôme moribond à l'UQAM, qui avait lancé un bar, qui savait pas marcher, qui dit, tiens, moi, lance une vodka, qui gagne un concours à l'international et qui, du jour au lendemain, devient riche. C'est ça que j'achète. J'achète une histoire à succès. Caroline Néron, pendant des années, a vendu une fille qui a eu un accident de moto, qui était une chanteuse qui réussissait pas trop, une ancienne actrice, puis que là, elle a commencé à faire des bijoux dans son sous-sol, puis whoop, elle est devenue multimillionnaire. Mais c'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle a une structure de coûts très faible, lui a permis de vendre des centaines de milliers de dollars de bijoux. Et un jour, elle a décidé d'acheter un réseau de distribution, c'est-à-dire de se lancer dans des boutiques et d'avoir beaucoup de visibilité et donc de monter son chiffre d'affaires lié à des faits que tu avais des beaux commerciaux, mais pas nécessairement parce que le produit était si en demande que ça au niveau total. Donc, si tu vends du succès, la femme de 10 millions, assure-toi d'être la femme de 10 millions, pas juste de chiffre d'affaires, de réalité. Deuxième leçon, les premières années, fais vendre des produits par les autres. Et mon idole là-dedans, c'est Ricardo. Ricardo, c'est une personnalité publique qui a profité de sa notoriété pour créer une marque, pour créer une notoriété. Et pendant des années, il a vendu au travers du réseau des autres. Il a laissé les autres payer les coûts fixes. Là, tu as des produits Ricardo chez Archambault, dans les librairies, chez Linen Chess, chez Rona. C'est rendu tellement gros que la face de Ricardo est plus là. C'est Ricardo la marque. T'sais. Marie-Lou a fait pareil dans le fond. T'sais. Marie-Lou a parti un blog après avoir profité de sa notoriété, mais a pas lancé des boutiques physiques Marie-Lou. Mais paiement une boutique, mais a pas un réseau de 15 boutiques. Picoum d'Isabelle Racicot, tu sais, c'est un site de lifestyle, mais on voit pas des boutiques Isabelle Racicot ou Picoum partout. Tu sais, on minimise ses coûts fixes. Donc, Ricardo a lancé, dans les dernières années, des boutiques fortes, mais la valeur de Ricardo, c'est son produit, pas les boutiques. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Fais vendre des produits par les autres. Troisième leçon, le marketing, c'est pas indépendant de la finance. Tu sais, hier, elle disait, tout le monde en parle, ben moi, je suis une spécialiste du marketing, les finances, c'était pas ma force. Je m'excuse, le marketing et les finances, c'est lié. Quand t'étudies à HEC Montréal, puis tu fais un bac, là, t'apprends que le marketing, c'est plus que de la mise en marché, c'est plus que des photos, c'est de l'analyse statistique, c'est de la gestion de marge, c'est calculer ton point mort, c'est calculer tes coûts fixes, tes coûts variables, calculer ton risque, c'est ton prix, ton produit, ton réseau de distribution, ta communication, c'est des données de marché, c'est des tendances. C'est pas « Ah, moi, je sais comment vendre mon produit parce que je profite de ma notoriété. » Ça prend plus que ça. Le marketing, c'est une profession. Et la quatrième leçon, c'est qu'il y a une limite à la prise de risque. Écoute ce que les résultats financiers te disent. Tu sais, les boutiques Caroline Néron servent d'exemple à tous les entrepreneurs qui ont rêve d'y aller, ce que j'appelle « all-in ». Tu sais, tu peux pas avoir un chiffre d'affaires de 800 000 puis après ça, tu dis « J'ouvre des boutiques, je pars, puis go ». Tu sais, quand tu es issu d'une famille riche, ou que t'as tes arrières couverts, tu peux bien perdre 500, 800, 900 000 $. Mais quand tes enfants attendent après ça pour manger, que ton avenir financier est lié à ça, puis que tu sais pas ce qui va arriver de toi demain matin, tu peux pas prendre ce genre de risque-là. Il faut que t'écoutes tes états financiers. Et envoyer un message aux petits entrepreneurs qui peuvent faire pareil, c'est non. Ici, Mme Néron va s'en sortir, là, parce que son divorce va être plus payant probablement que sa business. Mais pour le reste, une personne qui est un entrepreneur doit écouter les états financiers. Et si le message, c'est « tire sur la plug », ben tire sur la plug. T'sais. On verra si l'entreprise va survivre ou va mourir, mais faut pas oublier. Si ton entreprise est dans l'eau chaude, que t'es des comptes spéciaux d'une banque, que tes fournisseurs t'appellent, que tu paies pas tes taxes au gouvernement, c'est parce qu'il y a une limite à ta capacité de payer.
Moi, je suis pas un expert comme toi dans les chiffres, c'est sûr. Là. J'écoutais ça hier, là. Je la trouvais survoltée et sincèrement, je comprenais pas grand-chose. Puis elle me donnait l'impression, je peux me tromper, là, qu'elle non plus n'avait pas l'air à comprendre grand-chose dans ce qu'elle racontait.
Mais hier, ce qu'elle aurait dû faire, c'est en message public, c'est au lieu d'utiliser comme défense la contre-attaque sur chacune des personnes qui avaient posé une question, elle aurait dû faire preuve simplement de transparence puis dire « Écoute, quand je me suis lancé dans les centres d'achat... »
T'as pas une bonne idée.
Je faisais pas une scène, c'était pas une bonne idée, j'ai tout perdu à cause de ça et l'entreprise n'était peut-être plus viable à partir de là. J'avais une micro-PME, j'ai voulu la faire transformer en grosse chaîne de distribution, mais j'ai oublié la base. C'est que ce que je vendais, c'était un produit et non pas une chaîne de distribution. Et c'était mon erreur et on aurait dû s'arrêter là.
Un petit mot sur les chiffres de Oxfam concernant les plus riches de la planète.
Oui, les inégalités, pourquoi c'est important d'en parler? On a 26 personnes qui posséderaient plus que la moitié de la Terre. Ben, il y a plusieurs problèmes avec le capitalisme qui nous frappe en plein visage après des décennies d'accumulation. Un, il y a pas de reset à une fortune. Les plus riches, là, ben, ils vont toujours investir, puis les plus pauvres, ben, vont dépenser, donc l'écart va se grossir. Les ressources sont limitées et nous sommes de plus en plus d'humains. Donc, faire sa place est de plus en plus difficile. Si tu as un écart majeur, les plus pauvres pourront pas avoir accès à l'économie. L'héritage contredit les lois de la nature. Tu sais, le lion, là, quand c'est un dominant dans sa région, là, quand il meurt, son règne s'éteint avec lui. L'humain, lui, il a des liens de sang et la fortune transfère le pouvoir. Et il n'y a pas de fin tant que les héritiers font pas d'erreurs majeures. Et le système favorise les mieux nantis. La preuve, c'est aux États-Unis, on a réduit l'impôt des entreprises. Pourquoi? Mais parce qu'on veut favoriser l'économie. Mais qui ça favorise au bout du compte? C'est les gens qui ont des actions. Et qui a des actions? C'est majoritairement les gens qui ont de l'argent. Donc, le système, plus il y aura d'écarts de richesse, plus il y aura de gilets jaunes, plus il y aura de révoltes. Et un jour, il faudra redonner. Et c'est pourquoi il y a l'action de Giving Pledge aux États-Unis qui encourage les milliardaires à donner leur fortune à des œuvres philanthropiques.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée. 7h24.